La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole
France Culture.
La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
vous agitez France Culture.
Au cœur de France Culture.
Vivez avec France Culture.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous poursuivons ce matin, guidés par le professeur Denis Knopfler, notre voyage dans la Béotie du deuxième siècle de notre ère. Ce cours d'épigraphie grecque est consacré à Pausanias et les cités de la Béotie antique, Thèbes et Tanagra, Orchomène et les cités du Copaïs. Pausanias, ce grec fortuné et raffiné, venu d'Asie mineure, a écrit un journal de voyage très informé, intitulé La Périégèse, composé de 10 livres qui portent chacun sur une des régions de la Grèce de son temps. Denis Knopfler lit mot à mot, pour la deuxième année consécutive, le livre 9 de La Périégèse, consacré à la visite de Pausanias en Béotie, et nous en donne une vision vivante. En restituant le texte, Denis Knopfler fait revivre pour nous les lieux visités par Pausanias, les cités, leurs sanctuaires, leurs œuvres d'art, et ressuscite leurs fêtes, mais aussi les batailles qui s'y sont déroulées avec leurs flots de morts, d'exilés, de villes détruites et reconstruites, et de héros. Ainsi en est-il de Thèbes, au lieu de la Grèce antique, tombée en désuétude à l'époque de Pausanias. Hier matin, dans le cours que nous avons suivi, Denis Knopfler racontait la destruction de Thèbes par Alexandre le Grand, qui rasa la ville en 335, laquelle fut reconstruite de 315 à 287, puis rasée par les Romains en 146. Ce matin, Denis Knopfler nous parle de l'histoire des fêtes et des concours qui avaient lieu à Thèbes, cité célèbre pour ses arts et surtout la musique, fête dont Pausanias avait retrouvé les traces au cours de son voyage.
La question qui se pose à nous aujourd'hui est de cerner plus spécialement le rôle joué par Thèbes dans le développement de l'agonistique béotienne, et donc grecque aussi à certains égards. On peut penser a priori qu'il fut à la mesure de l'importance historique de cette cité, mis à part la sombre période que nous avons évoquée vendredi dernier, entre la destruction voulue par Alexandre en 335 et les années qui suivirent une reconstruction laborieuse à partir de 315 jusqu'à 287, puisque cette date de 287, je crois, montrait qu'elle avait toute chance de correspondre au retour de Thèbes dans la Confédération. Donc, mis à part cet intermède, si vous voulez, assez sombre, fait de dénuement, sinon de misère, où il est certain que la cité de Thèbes n'a peut-être pu organiser certaines de ces fêtes, mais n'en a en tout cas pas, développé. Notre connaissance de la vie agonistique thébaine laisse en fait beaucoup à désirer. Et cela tient à diverses raisons. Tout d'abord, la ville de Thèbes, avec ses alentours immédiats, est loin d'avoir livré la documentation épigraphique que l'on aurait pu légitimement attendre de la plus populeuse des cités béotiennes. Chose à première vue paradoxale. En effet, on a pour Thèbes un nombre bien plus restreint de catalogues de vainqueurs, ces listes si précieuses, on en verra un exemple tout à l'heure, pour établir la chronologie, le statut, le programme, la notoriété, bref, pour faire l'histoire d'un concours, Beaucoup moins, disais-je, que pour Tespi, Orchomène, ou même la modeste cité d'Akreifia. Mais ce déficit se retrouve, on le sait peut-être, dans la plupart des autres catégories d'inscriptions. Preuve qu'il est dû, évidemment, à une cause beaucoup plus générale. C'est l'histoire même de Thèbes, à la fois ses vicissitudes peu communes, et surtout la permanence de l'occupation humaine sur son site, qui a provoqué la perte, ou dans le meilleur des cas, puisqu'il y aurait un espoir, l'enfouissement de la plus grande partie de ces monuments antiques. Un handicap supplémentaire vient de ce que bien des inscriptions rangées sous l'étiquette de Thèbes, au musée de cette ville, où il y a une masse d'inscriptions réunies, ont une provenance sujette à caution. En particulier quand on ignore tout de leur lieu de trouvaille, de fait qu'il est avéré que nombre de pierres, pour diverses raisons, à diverses époques, ont été transportées dans cette ville depuis d'autres cantons de la Béotie, même parfois de plus loin. Une autre cause de notre relative ignorance des concours thébains vient de ce que, en dépit du prestige et de l'ancienneté de la ville, patrie reconnue de deux divinités majeures du panthéon hellénique, on va y revenir, la ville de Thèbes n'était apparemment point parvenue à faire reconnaître comme lieu inviolable par la communauté grecque tel ou tel de ses sanctuaires majeurs, Hieron Azulon, où il eût été possible aux Thébains d'organiser, en toute sécurité, seul ou avec les autres Béotiens, un agone, un concours de même niveau que les quatre grands concours anciens, ce qu'on appelle les concours de la périodos, du cycle, sur les Olympia, les Pythia, les Isthmia et les Néméa, organisés respectivement par les gens d'Élis, par l'Amphictyonie de Delphes, par la cité de Corinthe, et pour ce qui est des Néméa, par la petite modeste cité de Cléonaï, bientôt relayée par celle beaucoup plus importante d'Argos, une cité qui était tout à fait de la taille, de l'importance de Thèbes. Il est piquant de constater que c'est un poète thébain, le grand Pindare, qui nous fournit, grâce à une impressionnante série d'odes pour des vainqueurs, une part importante de ce que nous savons de ces grands concours athlétiques de rang panhellénique, en tout cas pour une date ancienne. Alors que son œuvre, l'œuvre de Pindare, il est vrai, très inégalement conservée, ne nous offre que de brèves allusions à des victoires remportées à Thèbes même, notamment aux Héracléia, ainsi qu'on va le voir. Certes, des auteurs plus récents auraient pu éventuellement combler les lacunes de la documentation épigraphique et littéraire, mais sans être tout à fait négligeable, ce filon-là n'est pas très riche non plus. Et ce n'est pas notre Pausanias, ici, qui constitue l'exception, puisque on ne trouve rien chez lui sur les concours thébains. Faut-il s'en étonner? D'une manière générale, le Périégète se montre très discret sur la vie agonistique des cités béotiennes. Du fait précisément, c'est du moins l'explication qui m'apparaît la plus probable, qu'aucune d'elles ne pouvait se prévaloir de la présidence d'un grand concours remontant à époque ancienne et reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté hellénique. Ce n'est pas un hasard. Si le concours des Eleutheria de Platée, dont nous avions eu à traiter l'an dernier, est à peu près le seul à retenir son attention dans le livre IX, c'est qu'à défaut d'être très ancienne, l'épreuve de la course en armes, depuis le trophée, avait à ses yeux le mérite d'être indiscutablement panhellénique, étant organisée, avec toutes les autres épreuves du concours, par le koinon hellénone, pour célébrer, On s'en souvient, la victoire des résistants grecs sur les Perses en 479. On a pu constater cependant que Pausanias avait eu à cœur de mentionner en toute brièveté, il est vrai, les Mouséia et les Érotidéia de Thespie. Pourquoi donc n'a-t-il pas fait de même pour les deux plus importants concours de Thèbes, les Héracléia, concours gymnique, et les Agrionia, concours musical? Je ne prétends pas d'avoir de réponse assurée à cette question, puisqu'il est toujours un peu hasardeux de vouloir expliquer les silences de notre auteur. Mais je croirais tout de même volontiers que c'est en raison du fait que de son temps, ces deux concours avaient perdu une bonne part de leur spécificité religieuse, de leur identité, en quelque sorte, étant désormais célébrés ensemble, comme l'attestent plusieurs inscriptions d'époque impériale, et pour honorer l'empereur, bien plus, selon toute apparence, que pour honorer les deux vieilles divinités thébaines auxquelles ils devaient leur création. Cela ne signifie pas, bien entendu, que Pausanias n'ait rien d'intéressant à nous dire sur le culte d'Héraclès, d'une part, et sur le culte de Dionysos à Thèbes, d'autre part. Mais force est de constater qu'il ne met pas clairement en évidence l'incontestable prééminence au sein du panthéon de la cité de ces rejetons illustres, en même temps que illégitimes, de Zeus, qu'étaient le fils d'Alcmène et le fils de Sémélé, deux femmes de Thèbes, pourtant, comme il en avait d'ailleurs pleinement conscience. On ne trouve pas chez lui, en effet, l'équivalent de la sobre, mais prégnante affirmation de Pline l'Ancien dans le livre 4, un livre géographique, caractérisant la ville de Thèbes comme la patrie de Libère, donc Dionysos, Bacchus, et d'Hercule, Héraclès. Autrement dit, donc, de ces deux grandes divinités, Thébae, je cite la phrase en latin, Thébae, duorum numinum liberi atque Herculis ut volunt, comme ils le prétendent, hein, patria, patria. C'est tout de même, pour une cité, une gloire immense que de pouvoir être la patrie, ou prétendre être la patrie de deux divinités aussi importantes. Mais le périégète, néanmoins, nous aide, et ce n'est pas rien, à localiser leurs sanctuaires respectifs, en même temps qu'il nous permet d'avoir une idée de leur environnement religieux. À côté de, disons-le au passage tout de même, en l'illustrant, à côté de l'affirmation très claire de Pline, un autre témoignage va tout à fait dans le même sens, c'est bien sûr celui des monnaies. Je rappelle, je vous montre à nouveau quelques spécimens du monnayage de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, avec la mise en évidence si claire à côté de la nymphe Théba du jeune Héraclès, qui est mis là en évidence de manière magnifique dans ce deuxième moitié du 5e siècle, et à côté, avec une place qui n'est pas moindre, souvent d'ailleurs sur les mêmes monnaies, il peut y avoir au droit Dionysos, au revers Héraclès, ici quelques images, d'abord du petit Héraclès en face des serpents envoyés par Héra, un autre revers, ça n'est pas la même monnaie, un Dionysos de face, et d'autres effigies de Dionysos dans différents profils, trois quarts, couronnés de lierre, etc. Sans oublier le cratère de la série que nous avons étudiée il y a quelques semaines, qui est clairement Dionysac également. Vous voyez donc que cette prééminence est manifestée là, de la manière la plus claire. Donc commençons par Héraclès, dont le sanctuaire et le culte est mentionné au chapitre 11. Je reproduis une partie du texte, en tout cas ici. Mettons peut-être comme ceci pour le moment, pour l'essentiel de ce passage. Pausanias, auparavant, a fait mention de l'Isménion, du sanctuaire d'Apollon, qui est localisé avec certitude, on l'a vu, au sud-est de la ville. Pour évoquer ce culte d'Héraclès, Pausanias ne va pas tout à fait droit au but. Il note d'abord que la maison d'Amphitryon et d'Alcmène, donc des parents humains d'Héraclès, avec le thalamos, la chambre à coucher en quelque sorte, où cette noble Thébaine, abusée par une ruse de Zeus, conçut des œuvres du dieu et mit au monde le petit Héraclès, réputé donc par ailleurs être le fils d'Amphitryon. De cette maison, disais-je, se voient encore, dit-il, des vestiges, c'est les premières phrases, des Ereipia, qui étaient désignés comme tels, évidemment, par les Thébains. À gauche, des Pulai Electrae, ces portes d'Electre que nous avons examinées précédemment. Donc, à l'ouest... à l'ouest pour qui entre dans la ville, gauche. C'est par là aussi, ajoute-t-il, que les Thébains montrent, ça c'est très important pour la topographie, le mnéma, le tombeau des enfants que ce même Héraclès eut de la Thébaine Mégara et qui tombèrent victimes de la folie meurtrière de leur père. On sait que cet épisode sanglant est le sujet de plus d'une tragédie, à commencer par la folie d'Héraclès de Ripide, mais aussi une tragédie latine de Sénèque. Ce monument funéraire était manifestement intégré dans l'Héracléon, proprement dit, où se trouvait la statue de culte adorée sous le nom de Promachos. L'épiclèse est intéressante, Promachos, qui est au premier rang, dans la mesure où elle se rapporte évidemment au rôle militaire joué par Héraclès, aussi bien, on peut dire, dans le mythe que dans l'histoire. Dans le mythe, Héraclès mène les Thébains victorieusement contre les Minyens d'Orchomène, l'éternel rival de Thèbes, et dans l'histoire, il y aurait plusieurs exemples. Rappelons le rôle que Héraclès joue à Leuctre en 371 et un rôle qui est aussi discrètement évoqué dans la stèle de Boston que j'avais commenté il y a quelques semaines. Vous vous rappelez, dans le fronton, il y a le petit Héraclès, vainqueur des serpents, et il est à sa place là dans un document qui évoque indirectement une entreprise militaire dans le Péloponnèse, comme je crois l'avoir montré. Je reviens au texte de Pausanias. Et l'épiclèse de Promachos peut expliquer aussi que le sanctuaire de ce dieu tutélaire ait été élevé, à date ancienne en tout cas, extramuros, devant le mur de la vieille ancêtre de la Cadmée, à proximité immédiate d'une des portes essentielles de cette enceinte. Pausanias précise que la statue de culte était l'œuvre de cette statue, donc d'Héraclès Promachos, de deux artistes thébains, Xenocritos Eubiou, Ergon de Xenocritou, Kai Eubiou Thébaion. Ces personnages demeurent pour nous toujours inconnus, ce qui ne prouve pas qu'ils étaient de médiocres talents. Il faut faire la part considérable de notre ignorance. C'est par hypothèse seulement qu'on place ces deux artistes au IVe siècle, en raison du fait que l'agalma, ces statues de culte, devaient nécessairement se trouver dans le temple. Or, si le Périégète ne mentionne pas explicitement, c'est une chose assez curieuse dans son évocation, le temple d'Héraclès, le Naos, il indique cependant, et c'est tout à fait capital, que les frontons, donc s'il y a fronton, il y a apparemment temple, avaient été décorés par Praxitèle, qui, dit-il, c'est donc le paragraphe qui commence par Tebaios ta entois aetois, les adaetois ce sont les frontons, Praxiteles, etc. Il avait placé dans les frontons la plupart, tapola, la plupart des exploits d'Héraclès, en écartant un certain nombre, notamment l'épisode des écuries d'Augias, mais était difficile à représenter, ou que les commanditaires thébains n'avaient pas voulu, ça on ignore la raison. Il a pu paraître étonnant que Praxitèle, plus connu certes par la confection de statues individuelles, représentant des divinités fort peu belliqueuses, ait pu être l'auteur d'un ensemble tympanal, de sorte que on a souvent proposé autrefois de voir ici un artiste homonyme, plus ancien, d'ailleurs bien difficile à cerner, cette identification arbitraire, puisque Pausanias, lui, de toute évidence, pensait au grand Praxitèle, sans ça il aurait indiqué d'une manière ou d'une autre qu'on avait affaire à un homonyme. Cette identification est aujourd'hui largement rejetée. Il reste qu'on voudrait bien savoir, ça intéresse peut-être plus les spécialistes de la sculpture que les épigraphistes ou les historiens, mais tous les problèmes se tiennent, on voudrait bien savoir comment le sculpteur de l'Héros de Praxitèle, du satyre verseur de l'Aphrodite de Cnide, s'en tira pour exprimer la force surhumaine d'Héraclès combattant des monstres. Il faut se résigner donc, au moins temporairement, à l'ignorer. C'est par pure conjecture, mais je la signale quand même parce qu'elle n'est pas inintéressante, qu'on attribue parfois à cette grande réalisation tympanale de l'Héracléon de Thèbes, une belle tête, un original, qui est conservé au British Museum, qui pourrait être de la deuxième moitié du IVe siècle, un Héraclès intéressant, discrètement barbu, hein, ce qui conviendrait assez bien pour Praxitèle, et qui, dont la figure, dont l'effigie présente quelques traits communs avec le fameux Hermès de Praxitèle d'Olympie. Je donne, disons, cette représentation sous toute réserve, mais elle montre qu'il n'est pas inconcevable d'attribuer à Praxitèle un ensemble tympanal à Delphes, et on voit évidemment aussi quel est l'intérêt de cette constatation, puisque ça prouve que le temple d'Héraclès, vu à Thèbes par Pausanias, devait dater du IVe siècle, du milieu du IVe siècle, remontant sans doute à l'époque même de l'hégémonie de Thèbes. Donc, on renouvelle en quelque sorte le culte d'Héraclès par de nouvelles constructions, comme on l'a fait d'ailleurs à Delphes, puisque c'est à ce moment-là que les Thébains font construire le trésor de Thèbes, un bâtiment où l'influence athénienne a été reconnue. L'Héracléon renfermait d'ailleurs, au témoignage de Pausanias, un monument athénien. Un monument athénien, ça peut paraître surprenant, ayant une forte connotation politique. C'était vers la fin du passage que je remets sous vos yeux. Il est question de deux colossoi, c'est-à-dire, bon, je n'entre pas dans la question très discutée de la signification exacte du mot colossos, mais disons probablement des statues gainées d'Héraclès et d'Athéna, œuvre d'un autre sculpteur athénien. Vous voyez que ces Thébains étaient très ouverts à l'art attique, il reconnaissait la prééminence d'Athènes dans ce domaine. Ces statues avaient été consacrées, on le voit pas à travers Pausanias, en 403 avant Jésus-Christ, au lendemain du renversement des 30 tyrans à Athènes, par l'Athénien Thrasybule et ses compagnons, car ceux-ci étaient partis de Thèbes pour libérer leur patrie, à l'inverse de ce qui se produisit 25 ans plus tard, lorsque des conjurés thébains libérèrent depuis Athènes Thèbes, en 379. Vous voyez donc ce passage de Pausanias ne manque tout de même pas d'intérêt. On voit là que dans cet Héracléon, Athéna et Héraclès avaient combattu côte à côte, on peut le dire, hein, comme c'est souvent le cas dans le mythe aussi. Mythe et histoire se recoupent. Et enfin, Pausanias fournit une indication tout à fait intéressante pour la topographie du sanctuaire. C'est, dit-il, que à l'Héracléon se rattache directement, c'est la dernière phrase que vous avez sous les yeux, se rattache directement un gymnase et un stade. L'un et l'autre éponyme du dieu, Amphotéra, éponyma, tout théou. Donc on l'appelait aussi l'Héracléon. Deux édifices, en fait, dont la mention aurait pu amener Pausanias, tout naturellement, à évoquer le concours des Héracléas. Eh bien non, il ne le fait pas, alors même que cet endroit était très certainement le lieu de la célébration du concours. Le témoignage de Pausanias concorde, pour l'essentiel, avec celui plus bref, mais nettement plus ancien, de Pindare, qui dans les Ismiques, la quatrième Ismique, et vers 61, situe les réunions organisées en l'honneur d'Héraclès et des enfants du héros, ces enfants qui jouent un rôle dans le culte, au-delà des portes Electrae, Electrane Upertaine, au-delà parce que Pindare se place dans la ville même de Thèbes. Ce témoignage aurait pu conduire depuis longtemps à la découverte de l'Héracléon thébain, d'autant plus que Arrien, dans le fameux récit qu'il a donné du siège de 335, montre à son tour que l'Héracléon se situait près du pied méridional de la Cadmée, à l'extrémité d'un chemin creux, Koilos Odos, qui fut la voie d'accès justement des Macédoniens dans la prise de la ville en 335. Mais on a longtemps cherché l'Héracléon, montrons quelques plans, si j'y arrive, oui, on l'a longtemps cherché sans doute trop au sud, trop au sud. Je montre d'abord ce plan bien ancien de Ulrichs. Si on regarde le plan peut-être de base de Fabricius, si on peut le regarder d'ailleurs aussi dans sa version française, vous l'avez vu, il est tout de même à plusieurs centaines de mètres du rempart, aussi dans la version française de Fougères, du vieux guide bleu, du guide de Joanne. On peut dire que cette localisation tout à fait traditionnelle, on retrouve dans le plan de Keramopoulos, qui est tout à fait fondamental, oui, par rapport à l'Isthmenion, qui est ici, toujours placé hors du rempart, mais loin, assez loin des portes. Notons une chose, un plan que je vous montre ici peut-être pour la première fois, en transparent. Le plan, à certains égards, totalement erroné, de Gommet, pourtant un bon connaisseur aussi bien des textes que de la topographie au début du XXe siècle, commentateur de Thucydide. Vous voyez qu'il a placé en fait l'enceinte de Thèbes au nord de la Cadmée, et avec pour conséquence que les portes Electrae sont bien près de la pointe nord. Mais l'intérêt de ce plan, c'est qu'il est le seul à avoir établi une très grande proximité entre les portes Electraim et l'Héracléion, côte à côte. Or, il faut reconnaître que sur ce point seulement, c'est lui qui avait raison. Car l'identification maintenant est assurée par une découverte toute récente en 2004, d'abord découverte fortuite, puis l'endroit est fouillé actuellement par les forêts de Thèbes. On a en effet au pied même de la Cadmée, à quelques dizaines de mètres de des portes Electraï, vous vous souvenez ces portes Electraï, hein, là dans l'angle sud-est, c'était ces portes-ci, donc tout près de cet endroit, on trouve les portes, vous voyez là les portes Electraï, en bas, et ici elles sont à peu près au point 5 dans cette vue, et je passe ici, vraiment à titre purement informatif, une vue de l'état actuel de la fouille. Ça n'est pas encore grandiose, mais l'identification des lieux est totalement assurée par des trouvailles de tessons inscrits, avec la mention d'Héraclès, avec la mention des Païdès aussi, de ces fameux enfants d'Héraclès. Donc c'est avec une très grande curiosité qu'on attend la publication de cette importante découverte, qui, outre son intérêt évident pour la topographie, hein, la proximité immédiate de l'Héracléion et de la porte Electraï, au moins dans son état hellénistique, permettra d'esquisser sur des bases entièrement nouvelles l'histoire d'un sanctuaire sans doute très ancien, remontant en tout cas au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, peut-être mettre ça maintenant comme ceci. Mais que sait-on alors, pour avancer un peu, à l'heure actuelle, et indépendamment de cette découverte qui ne nous renseigne pas, si je vois bien, sur l'histoire du concours, que sait-on justement de ces Héracléia, ce concours pour Héraclès? Il est connu en tout cas depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, comme concours annuel. Donc certainement pas un concours sacré, au sens strict, technique du terme, par dimension allusive, encore une fois, dans les épinicies de Pindare, qu'essaye d'expliciter, tant bien que mal, des... vers Pindare, notamment, puisqu'il avait dans cette ville un sanctuaire indépendant d'Héraclès. C'est là, selon Arien, toujours dans son récit du siège, que Alexandre avait établi son camp, hein, et Pausanias connaît également cet Héroïne de Iolaos, lui aussi d'ailleurs pourvu d'un gymnase et d'un stade, comme le dit Pausanias en chapitre 23, qu'il situe un petit peu plus au nord, devant les portes Proïtides, donc dans une situation très comparable à celle de l'Héracléion. Les deux sanctuaires étaient évidemment liés. Il paraît difficile de croire, jusqu'à plus informé, que, comme on en a fait la supposition, les Héracléia aient pu se dérouler dans le Iolaion. Hein. Normalement, ce concours a dû être célébré tout naturellement dans le sanctuaire même d'Héraclès. On possède par ailleurs sur le déroulement des Héracléiens à l'époque classique une information précieuse chez Plutarque, c'est auteur certes tardif, mais toujours bien informé des choses béotiennes. Au moment de la fameuse insurrection thébaine de l'année 379, un bon nombre de salpinctai, dit-il, de trompettes, hein, de joueurs de trompettes, se trouvaient justement réunis à Thèbes pour ouvrir, selon l'usage, le concours des Héracléas. L'épreuve de trompette, des Kérypkès, avait peut-être, elle, lieu sur l'Académie elle-même, puisque elle ne demandait pas une installation sportive, si l'on veut. Vers la fin du IIIe siècle déjà, le concours était si célèbre, le concours des Héracléas, qu'un traité, malheureusement perdu, d'un périégète, Polémon d'Ilion, lui fut consacré. C'est sans doute cet ouvrage qui fournissait aux commentateurs antiques de Pindare l'essentiel de leur information. On y voit notamment que les vainqueurs aux Héracléas obtenaient comme prix un trépied. Mais, comme l'a bien marqué Louis Robert à diverses reprises, cette réputation n'en faisait pas un concours panhellénique au sens strict du terme. C'est seulement un peu plus tard, en effet, qu'il accéda au statut de concours sacré, sans qu'on sache rien, pour le moment en tout cas, en l'absence de tout décret relatif à l'organisation de la fête, donc on ne sache rien des circonstances, de la date où ce changement fut d'abord demandé, puis obtenu. Tout ce que l'on sait, c'est déjà important, c'est que dès la fin du IIIe siècle, vers 200 avant Jésus-Christ, les Héracléas, alors, étaient reconnus comme et rangés au nombre des agones stéphanitae. Comme le laisse voir le palmarès d'un coureur, par exemple, le plus ancien, vers 200, qui a été vainqueur dans une série de concours panhelléniques, justement. Et notamment, pour la Béotie, les Eleutheria, les Basileia de Lebadée, et les Héracléia, qui nous intéressent ici. Et ce document est ensuite confirmé par une importante série de palmarès de ce type, jusqu'au début du Bas-Empire, jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Donc un concours qui a une très longue vie. On connaîtrait évidemment beaucoup mieux son programme et aussi sa périodicité, sans doute, concours ayant lieu tous les deux ans, triétérique, si l'on avait à Thèbes, en fait, de catalogue, autre chose que deux assez misérables fragments, pour le moment, publiés en 1975 par le spécialiste qui était alors, pour l'épigraphie béotienne, Paul Roche. Il faut dire maintenant un mot de l'autre divinité, plus brièvement, dont la naissance à Thèbes était un sujet d'immense fierté pour cette cité, considérée comme une espèce de métropole du dionysisme dans le monde grec. Si la figure du Dionysos thébain est relativement bien connue, notamment grâce au rôle qu'il joue dans les bacchantes de Ripide, son principal sanctuaire reste encore passablement dans l'ombre. Certes, il ne fait pas de doute que Dionysos avait sa demeure sur la Cadmée. Il est officiellement invoqué sous le nom de Dionysos Cadmeios, c'est tout à fait clair, mais à quel endroit se trouvait-il de cette vaste acropole? Son voisinage avec le sanctuaire de Déméter Thesmophoros peut s'appuyer sur plusieurs indices. Pindare qualifie en effet Dionysos comme parédros, comme parèdre, siégeant à côté de Déméter. Et de fait, Dionysos et Déméter sont souvent associés, ce sont des divinités proches à beaucoup d'égards. Et cette proximité topographique est également suggérée par Pausanias, dans le chapitre qu'il consacre à Déméter Thesmophoros, au chapitre 16, quand il dit que le hiéron de Déméter occupe l'ancienne maison, l'oïkia, le palais si l'on veut, de Cadmos et de sa descendance. Car il établit également un lien de ce type dans le chapitre qu'il consacre, 12. Petit chapitre, à vrai dire, à Dionysos Cadmeios. Là aussi, il montre une proximité, ou même une identité, avec le palais de Cadmos, ou les ruines du palais de Cadmos, dans lequel on reconnaît encore, selon les Thébains, là aussi un thalamos, une chambre à coucher, où cette fois c'est Sémélé, fille de Cadmos, qui avait accouché du petit Dionysos avant d'être foudroyé par Zeus à l'instigation de la jalouse Héra. Donc, voisinage assuré du Thesmophorion et du Dionysion sur la Cadmée, sans aucun doute. Le problème, c'est que on a cherché l'emplacement du Thesmophorion en divers endroits, sans pouvoir être totalement sûr encore de sa localisation exacte. Si l'on prend peut-être à nouveau le plan. Le plan de Simeonoglou, Topography of Thebes, mais qui est déjà un petit peu ancien, donc des années, début des années 80. Vous voyez qu'il place en 97 Déméter Thesmophoros, puis un peu au nord Dionysos Cadmeios, et c'est effectivement la région, le cœur de l'acropole mycénienne, et c'est là que les spécialistes, l'euphorie de Thèbes, situe le palais de Cadmos. Le problème, c'est que plus récemment, on a trouvé un sanctuaire vers le nord, à cet emplacement ici à peu près, qui semble pouvoir être celui de Déméter Thesmophoros. Alors, ça pourrait entraîner pour Dionysos Cadmeios, si l'on admet une proximité très étroite, un déplacement vers le nord. Vous constatez donc par là que la topographie thébaine au cœur de la Cadmée reste encore problématique sur plus d'un point, d'autant plus que toutes les fouilles ne sont pas publiées. Pausanias lui-même n'est pas très précis, il faut bien le dire, sur le Dionysion. Il se contente d'un rapport avec l'Agora. C'est clair que nous sommes là au centre de la Cadmée, hein, mais où exactement. Le sanctuaire n'est pas à proprement parler décrit par lui. Il évoque un beau mos décoré par les fils de Praxitèle, ce qui est d'ailleurs intéressant pour la chronologie. Ça prouve que le Dionysion a dû être passablement reconstruit après 315, à la fin du IVe siècle. Il n'est pas question là d'un naos. Et vous savez qu'un temple n'est pas indispensable dans un sanctuaire grec. C'est un élément qui peut être tout à fait secondaire. Le cœur du sanctuaire de Dionysos, c'est frappant, c'était le thalamos. Et ce que, à vrai dire, les textes officiels, et déjà Euripide dans les Bacchantes, appellent le sékos de Sémélé, le sékos, c'est-à-dire soit l'enclos, soit une espèce de, soit peut-être une cella quand même, en tout cas un petit édifice où l'on montrait qui était le lieu de la naissance même de Dionysos. Quant au concours en l'honneur de Dionysos Cadmeios, connu sous le nom exclusivement béotien de Agrionia, il ne nous est attesté que par un petit nombre d'inscriptions. La littérature ancienne, ici, il faut le remarquer, l'ignore complètement. Ignore complètement ce concours. C'est une différence notable donc avec les Héracléia. Mais c'était une fête assurément très ancienne. Son nom même l'indique, un vieux nom local. Il y a un mois Agrionios dans le calendrier béotien. Elle était sans doute cette fête célébrée en bien des cités béotiennes, mais c'est à Thèbes seulement qu'elle donna lieu à un grand concours de type musical, cette fois, un type musical. Ce par quoi donc les Agrionia se distinguent tout à fait des Héracléia. C'est d'ailleurs en raison de cette caractéristique essentielle que le jeune Louis Robert, en 1935, sut découvrir une mention très importante des Agrioniens, Thébains, qui avait échappé jusque-là. Dans un très important décret exposé autrefois à Delos, et qui depuis longtemps se trouve au Louvre, un décret du début du deuxième siècle, exactement, disons, un petit peu antérieur à 167, qui émane des technites, c'est-à-dire donc d'une association de d'artistes de théâtre regroupés dans une congrégation de Lyonie. Dans ce décret, disais-je, les artistes se font gloire de participer à plusieurs grandes fêtes, et notamment les Pythia et les Soteria de Delphes, les Mouseia de Thespis, de même qu'à un concours organisé à Thèbes, voilà qui donc pique l'attention. Et on avait cru au départ, dès la première édition, ici je montre le texte tel qu'il était édité par l'archégète, on peut dire, des études épigraphiques, Beuck, dans son corpus, je souligne les mots de cette version qui serait à corriger sur plusieurs plans. Vous voyez qu'il est question des fêtes, d'Apollon Pythien, des muses, de l'Hélicon, d'Héraclès mis entre crochets, donc restitué, puis à Delphes, les Pythia, les Soteria, à Thespis, les muses, à Thèbes encore, Entebais, des Tois, Héracléiois, voilà les grandes fêtes dont les technites se vantent, auxquelles les technites se vantent de participer. Mais vous constatez que c'était, à part deux fois, une restitution pour Héraclès, pour les Héracléia. Louis Robert, avec une grande perspicacité, montra que cette double restitution était non seulement inepte, compte tenu du programme gymnique des Héracléia, qui n'avait rien à faire dans cette liste de concours manifestement musicaux, et les techniques ne s'occupent que des concours musicaux, mais qu'il fallait donc remplacer par deux fois, et conformément aux traces d'ailleurs qui se voient sur la pierre, d'une part le nom de Dionysos et celui des Agrionia, et dans cette version beaucoup plus récente du texte, on tient compte de cette nouvelle restitution. Vous voyez que désormais c'est tout Dionysou, c'est Agrionios et non plus Héracléios qui figure dans le texte. La cause était entendue, elle a été acceptée par tout le monde, et on avait grâce à cela, chose très importante, la preuve que ce concours des Agrioniens, mis sur le même plan que les Mouseia et surtout que les Pythia et les Soteria de Delphes, était, en tout cas au début du deuxième siècle, un concours panhellénique. Il avait accédé à ce statut. Et d'ailleurs, le même savant, plus tard, est revenu sur les Agrionia pour faire progresser l'intelligence d'un dossier capital relatif à ce concours qui avait été mis au jour progressivement à Delphes. Il s'agit effectivement de trois décrets de l'Amphictyonie de Delphes, vers 225, gravés sur les murs du trésor de Thèbes, et qui étaient d'ailleurs, dont une copie, que nous n'avons pas retrouvée, un jour peut-être, figurait aussi sur le sécos de Sémélé à Thèbes même. Hein. C'est-à-dire que les fouilles peuvent nous réserver encore des surprises. Et, en quelques mots, que peut-on tirer alors de ce dossier pour l'histoire et l'organisation du concours? En premier lieu, que vers 230, époque où l'Amphictyonie a s'occupé de plusieurs fêtes béotiennes, une demande fut adressée à cette institution internationale pour que le sanctuaire de Dionysos Cadmeios à Thèbes pût également à l'avenir bénéficier du privilège d'avoir, comme les grands concours, une trêve sacrée permettant de garantir la sécurité du sacrifice, du concours, de la venue des artistes et du public tous les deux ans. C'est une fête qui est proclamée comme étant triétérique, sans doute comme les Héracléia. on voit que donc ce dossier apporte beaucoup. Et ce qui est important également, qui ressort clairement de ce dossier, c'est la participation très active d'une association de technites, en l'occurrence les technites, non pas de Lyonie comme dans le décret que j'évoquais tout à l'heure, mais les technites réunies et qui s'appellent de l'Istme et de Némée, c'est-à-dire des artistes qui essentiellement s'occupaient de fournir des concurrents musicaux pour les grands concours istmiques et néméens. C'est cette congrégation qui se voit associée de très près à l'organisation du concours aux côtés de la cité de Thèbes, hein, à part égale en quelque sorte, à part égale. De la confédération, en revanche, il n'est pas question. C'est un concours, quoi qu'on ait pu dire, qui n'a aucun rapport avec confédération. Voilà donc l'essentiel de ce que l'on peut dire de ce concours des Agrionia, qui a perduré pendant assez longtemps, avant de se transformer à l'époque impériale et de devenir de simple Dionysia. On laisse tomber le vieux nom, peut-être qui est devenu peu intelligible, et d'être associé ensuite aux Héracléa. Une inscription est venue au jour tout récemment sur la Cadmée, on verra tout à l'heure exactement où. Une inscription qui est un modeste, peut-être modeste catalogue de vainqueurs. C'est une stèle qui d'ailleurs n'est pas complète, mais on en a heureusement le début. C'est ceci. Voici la stèle telle qu'elle se présente. Et j'en montre ici une transcription. Nous avons heureusement l'intitulé et la première partie du catalogue de ce concours musical, en tout cas pour la partie qui apparaît là. Et l'élément nouveau, tout à fait important, c'est que le concours célébré là est ce sont des Romaïa, un concours pour la Théa Roumée, donc la déesse Rome. C'est une surprise tout de même, en tout cas une demi-surprise, de voir que les Thébains, à un certain moment, ont créé un concours pour Rome, en l'honneur de cette divinité tutélaire des Romains, car les Thébains ne passaient pas pour être particulièrement les amis de Rome, et toute l'histoire de la cité montre qu'ils eurent des relations très, le plus souvent, hostiles, en tout cas problématiques, avec les Romains. Je ne dis rien ici de la manière dont on peut établir la date de ce catalogue. Je crois, on verra quelles sont les possibilités qui permettent de la placer de façon très précise, on peut dire, et en tout cas à peu près assurée, vers 120 avant Jésus-Christ. Vers 120 avant Jésus-Christ. Ce qui m'importerait ici, en toute brièveté, c'est de voir si l'on peut expliquer la création d'un tel concours musical, donc, selon toute apparence, qui avait sur ce point, qui était donc semblable à celui des Agrionia, concours qui pouvait d'ailleurs être mixte. Nous avons là le début d'un catalogue, hein. Il pouvait être beaucoup plus considérable, indiquer beaucoup d'autres vainqueurs à des épreuves diverses, et il ne faut pas exclure l'éventualité qu'on ait affaire à un concours mixte, à la fois d'abord musical, puis athlétique, car une telle combinaison n'avait rien de scandaleux. Elle n'est même pas un signe, disons, de décadence dans l'agonistique grecque, puisque de très prestigieux concours, à commencer par l'Épitia de Delphes, était précisément un concours mixte. Et, autant qu'on voit, plus d'un de ces concours appelés Romaïa avait ce caractère mixte. En tout cas, la chose est sûre, pour une manifestation qu'on connaît grâce à un beau catalogue publié il y a quelques dizaines d'années, un catalogue de Xanthos, pour des Romaïa de Xanthos, où le caractère mixte est parfaitement assuré.
C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Denis Knopfler. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé.
En Limousin, du 26 septembre au 8 octobre à Limoges. Un festival qui rassemble écrivains, comédiens, danseurs, musiciens pour parler du monde d'aujourd'hui et offrir le visage d'une francophonie moderne, créative, engagée. Les francophonies en Limousin, du 26 septembre au 8 octobre avec France Culture. Un événement présenté dans le cadre de Francophonie, le festival francophone en France. France Culture, partenaire du Festival de Biarritz, du 26 septembre au 1er octobre. Une manifestation qui présente le meilleur de la création latino-américaine, avec des expositions, concerts, rencontres, débats, mais aussi et surtout à travers le cinéma, avec une sélection de films de l'année, des rétrospectives sur le cinéma chilien ou d'Amérique centrale, un hommage au comédien argentin Federico Luppi, des avant-premières. Le Festival de Biarritz, cinéma et culture d'Amérique latine, du 26 septembre au 2 octobre à Biarritz, à retrouver dans les émissions de France Culture.
Bonjour, votre matinée sur France Culture, 9h05, la fabrique de l'histoire, cette semaine, histoire de l'innovation, et ce matin, de l'ouragan au Mirage 4, petit tour de piste des avions d'assaut. 10h, les humanités jusqu'à la lune et retour avec Florence Noiville, auteur de Petites histoires de derrière les fourneaux pour les jeunes lecteurs dès 9 ans. Colline Promera, auteur de l'album La Bonne Bouillie pour les petits dès 3 ans. Céline Herman, auteur du livre Méchante soupe pour les bébés jusqu'à 3 ans. 10h30, histoire d'écoute, premier son de Régine Destombelles. 11h, les chemins de la connaissance, cette semaine ralentir travaux avec Charles Malamud, anthropologue et linguiste, spécialiste de la civilisation et des modes de pensée de l'Inde, dont il explore les rituels védiques. Troisième volet autour de le jumeau solaire. Et tout de suite, debout, les matins de France Culture ont sonné, l'heure de retrouver Ali Badou.
Bonjour à tous, c'est bon réveil, il est 6h59 et précisément 7 secondes pour ceux qui veulent régler leur montre. En tout cas, le programme des matins ce mercredi 27 septembre, les enjeux internationaux s'arrêteront en Autriche à l'occasion des élections législatives de dimanche prochain. La recomposition politique à l'heure du déclin et de la division de l'extrême droite, c'est le sujet qu'abordera Thierry Garcin. Et puis l'invité des matins sera tout à l'heure le magistrat espagnol Baltasar Garzón. Il est juge à l'Audiencia Nacional, c'est la plus haute juridiction pénale espagnole. Et il publie un récit qui s'appelle « Un monde sans peur ». C'est le titre de cette autobiographie qui est aussi un livre de réflexion sur la justice moderne et ses très nombreux défis. Il y raconte 17 années de combat contre le terrorisme nationaliste, mais aussi contre le terrorisme international. Vous vous souvenez que c'est lui qui menait la lutte contre l'OTA en Espagne. Il s'est aussi occupé de l'enquête sur les attentats de Madrid. Le juge Garzón avait encore inculpé il y a quelques années le général Pinochet pour complicité de torture, séquestration et assassinat. Il sera notre invité à 8h20. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Et le journal est présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali et bonjour à tous. Ils sont tous contents, sourire de rigueur hier soir au Parti Socialiste, après l'adoption d'un code de bonne conduite, d'une charte régissant le nombre de débats entre les futurs prétendants à la magistrature suprême. Après s'être déchirés en public ou à huis clos, tous se félicitent donc. Seule voix discordante, ce n'est pas une surprise, celle d'Henri Emmanuelli, nous l'entendrons dans ce journal. Une édition qui nous emmènera en Russie, où les appétits du Kremlin dans le domaine énergétique menacent désormais total. En Afghanistan, avec un reportage d'Éric de la Varenne sur le retour en force des talibans, sujet qui déchire les présidents afghans et pakistanais qui doivent retrouver ce soir George Bush pour un dîner à trois. En France, nous ne manquerons pas avec Laure de Vulpian de marquer le malaise qui continue de s'installer au tribunal correctionnel de Paris où se poursuit le procès des faux électeurs du 3e arrondissement. Nous ajouterons une palme au prix déjà reçu à Cannes par le film indigène de Rachid Bouchareb, celle du meilleur plaidoyer politique en faveur des anciens combattants étrangers, puisqu'il a suffi de 2h08 pour convaincre Jacques Chirac d'avancer sur un dossier au point mort depuis des années. Et puis nous nous envolerons à Berlin où Idoménée de Mozart fait les frais du religieusement correct. C'est une promo de rêve pour Indigène. Le prix d'interprétation raflé à Cannes n'est rien à côté de l'émoi suscité à l'Elysée par le film de Rachid Bouchareb. Plus personne n'ignore désormais qu'il sort ce mercredi sur les écrans et qu'il retrace l'épopée de soldats des colonies venus libérer la France lors de la Seconde Guerre mondiale, mais jamais reconnus à part entière par la République. Ce devrait être chose faite très bientôt. Jacques Chirac devrait en tout cas annoncer ce matin, lors du Conseil des ministres, la mise à niveau des pensions des anciens combattants étrangers avec celle que touchent les Français. Benoît Colomba.
Cela se comptera en centaines de millions d'euros. Le chiffrage n'est pas encore arrêté. Pour le moment, le ministère des Anciens Combattants se contente de préciser que 80 000 personnes de 23 nationalités différentes sont concernées. Des personnes qui touchent aujourd'hui une retraite d'anciens combattants ou une pension militaire d'invalidité. En 2002, des estimations ministérielles sur le coût d'un alignement de ces pensions sur celles des anciens combattants français tablaient sur 300 à 460 millions d'euros par an. Avec un éventuel rappel des arriérés chiffrés à 1,5 milliard d'euros, 45 années d'arriérés qu'il n'est pas question à l'heure actuelle de rembourser. À la demande du chef de l'État, ce dossier de la revalorisation des pensions est aujourd'hui à l'étude sur le bureau du ministère de l'Économie et des Finances, mais sans calendrier officiel pour l'instant. Le financement de l'égalité des pensions n'est pas inscrit dans le projet de loi de finances 2007, présenté aujourd'hui au Conseil des ministres, mais il devrait être introduit par amendement lors de la discussion du budget au Parlement d'ici la fin de l'année.
Et précisons que la pension des anciens combattants étrangers devrait en moyenne quadrupler pour atteindre 450 euros par an. Le projet de loi de finances 2007, Benoît Colomba y faisait allusion à l'instant, arrive donc sur la table du Conseil des ministres. Un budget placé sous le double signe de la rigueur, donc de la réduction des dépenses, avec la volonté de ramener le déficit à 2,5% du PIB, et des largesses avec les baisses d'impôts qui devraient reprendre Sarah Guibaudot.
Votée l'année dernière, la réforme fiscale coûtera 6,5 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu ne comportera plus que 5 tranches et dans la plus élevée, le taux d'imposition est abaissé à 40%, une mesure qui profite à tous les ménages imposables, mais surtout aux plus aisés. Le gouvernement a renoncé à supprimer l'impôt sur la fortune, mais il instaure le bouclier fiscal. La somme des impôts nationaux et locaux ne pourra pas dépasser 60% des revenus d'un ménage. La prime pour l'emploi est augmentée pour les bas salaires et les entreprises bénéficieront du plafonnement de la taxe professionnelle. D'autres mesures, moins coûteuses, se sont ajoutées au fil des mois. Les baisses de charges pour l'hôtellerie-restauration, la suppression des dernières cotisations patronales sur le SMIC ou le chèque transport. Pour les financer, la plupart des ministères vont devoir se serrer la ceinture, à quelques exceptions près, comme la justice. Le gouvernement compte aussi sur la suppression de 15 000 postes de fonctionnaires.